Les hommes de religion tout seuls ne peuvent pas tout faire. Il faut aussi la collaboration des politiciens et le message doit arriver à toutes les couches de la population. Donc ce que les chefs religieux peuvent faire, c'est annoncer la bonne nouvelle, parler du problème, parler des solutions, parler à la conscience des hommes pour leur parler de la gravité de la situation. Et il faut le faire ensemble, pas simplement des catholiques seuls ou des juifs seuls ou des musulmans seuls, parce que quand la Méditerranée est polluée, c'est tous qui souffrent, musulmans, chrétiens, juifs, ce n'est pas un seul qui souffre. Donc c'est un travail d'ensemble où tout le monde doit être engagé en même temps. On peut faire de petites choses et de grandes choses. Et chacun parle à sa façon. Mais il faut que les deux puissent parler. Donc les religions ont un mot à dire sur l'environnement et comment traiter avec l'environnement, comment respecter l'environnement. Par exemple, à planter un arbre, une forêt, empêcher la course aux armements. Vous voyez, il y a toute une gamme de choses à faire et à ne pas faire.
Le fait que les juifs, les musulmans et les chrétiens se mettent, disons, du même côté en faveur de l'environnement, est-ce que ça donne plus de force à cette lutte pour une planète propre?
Bien entendu, parce que les croyants qui se disent musulmans, chrétiens et juifs sont plus que 3 milliards. Donc, si une moitié de l'humanité écoute cette bonne parole, ça peut influencer toute l'humanité. Et je pense que les autres religions comme les bouddhistes, les hindouistes, eux, je pense qu'ils partagent avec nous les mêmes idéaux de respect de la nature. Ça m'a étonné, par exemple, quand je parlais, il y avait aussi un rabbin, David Rosen, les deux, nous avons cité le livre de la Genèse. Voyez, avoir en commun le livre de la Genèse qui parle du respect de la création, que le Seigneur nous a confié la terre pour la cultiver et pour la soigner, prendre soin. Quand nous avons dit que Dieu nous a confié un paradis, l'Éden, et qu'il fallait cultiver, et qu'il y a eu des épines parce que l'homme ne cultivait plus la terre, que l'homme a désobéi le Seigneur, donc le péché a causé la pollution et les dégâts à cette belle nature que le Seigneur nous a confiée. Déjà parler de la Genèse, c'était une illumination extraordinaire pour nous, chrétiens, et pour les juifs qui partagent le même livre et les mêmes idéaux pour ce qui est de la création et de la nature.
Il est écrit dans la déclaration « Nous reconnaissons également les racines spirituelles de cette crise et l'importance d'offrir une réponse religieuse ». Alors, pour quelle raison, quel est le lien, disons, de cause à effet entre foi et dégradation de l'environnement?
La foi, c'est que nous croyons dans un Dieu créateur. Donc, si Dieu a créé, il a créé pour un motif. Et la création doit être respectée parce qu'elle reflète le Créateur. Donc respecter la création, c'est respecter le Créateur lui-même. Il y a effet de cause, effet entre Créateur et création. L'homme est créé, mais l'homme est un être intelligent. Il doit traiter avec la nature comme Dieu veut que nous traitions avec la nature. Quand on ne respecte pas la nature, on ne respecte pas le Créateur. Donc derrière une crise écologique, il y a aussi une crise éthique, même une crise spirituelle. Vous voyez le cantique de saint François d'Assise qui dit « Béni soit Dieu pour notre sœur la lune, pour notre frère soleil, pour notre frère vent, pour notre sœur l'eau que tu as créée limpide et pure ». Vous voyez, ça reflète l'âme pure d'un saint François d'Assise. Donc une âme nourrie de la Bible, de la belle création que Dieu a faite. Donc ça peut avoir une influence même sur la beauté qui est autour de nous qu'il faut respecter, comme un jardin, une fleur, une plante. Je pense qu'entre foi et environnement, il y a une relation de respect qui vient du fait que nous croyons dans un même créateur qui a créé le monde par amour.
Saint François chantait la nature, également vous l'avez cité, l'eau. Et au Moyen-Orient, on le sait, le manque d'eau est un problème qui est toujours plus présent. Et finalement, Israël et la Palestine pourraient à la fin se retrouver toutes deux victimes du changement climatique. Alors est-ce également cet intérêt commun qui a poussé à s'engager tous ensemble?
En Palestine, il y a un problème grave, l'eau. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'eau, il y a assez d'eau souterraine. Simplement, cette eau n'est pas partagée d'une façon juste. Si on la partage d'une façon juste, où tout le monde reçoit également sa portion d'eau, ça veut dire 50 litres par jour, pour pouvoir se laver, faire la douche, manger, boire, etc., il y aura assez d'eau. Vous voyez l'Afrique. En Afrique, il y a une crise d'eau. une sécheresse extraordinaire, surtout dans la partie du Sahara ou la Corne africaine. Or, dans certains pays africains comme le Sud-Soudan, où il y a les sources du Nil, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Donc s'il y a une meilleure redistribution de l'eau du Nil, toute l'Afrique aura assez d'eau. Mais simplement, l'affaire est une affaire de redistribution, de justice et d'égalité. J'ai donné un exemple qui s'applique aussi bien à la Palestine qu'à la Syrie, à la Turquie. La Turquie a beaucoup d'eau. La Turquie est très riche en eau. La Turquie, elle seule, peut résoudre, désaltérer le désert du Negev ou de tout ce qui habite dans le désert de Juda ou de n'importe quel, le désert de la Jordanie. Il y a assez d'eau, mais il faut une meilleure distribution. Donc, les religions qui parlent d'égalité, amour, charité, compassion, peut aider aussi, même pour résoudre le problème de l'eau.
Les religions se sont unies sur la question de la défense de l'environnement. Espérez-vous que cette union aille plus loin sur le plan politique, par exemple?
Ma proposition était celle-ci, pour que nos débats et nos conventions et nos réunions puissent avoir plus de force, il faut deux choses. Il faut que ça arrive aux politiciens, il faut donc que les politiciens viennent parler et écouter surtout. Il faut que ce que nous disons dans ces réunions plutôt closes, puisqu'il y a peu de monde qui vient à la réunion, il faut faire arriver ça à toutes les couches de la population. Il faut que ce soit prêché le dimanche, le vendredi et le samedi. Comme ça, des milliers d'hommes et de femmes, d'enfants, écoutent la même chose. Donc ça aura plus d'effet si cette bonne parole qui a été dite aujourd'hui avec force et harmonie puisse arriver à toutes les couches de la société, y compris les politiciens.
Ma dernière question, Monseigneur, qu'attendez-vous concrètement de cette déclaration, de ce texte? Qu'est-ce que vous espérez comme retombée?
Vous savez, le bon grain tombe dans le terrain. Il faut du temps pour que ça produise. Vous voyez, le chant que Saint François a fait il y a 7 siècles, on le chante encore aujourd'hui, voilà, on le cite. Il est plus cité aujourd'hui qu'au temps de Saint François. Donc parfois, une bonne semence, un bon grain, a besoin de beaucoup de temps pour germer et produire un fruit. Donc nous ne devons pas dire ou bien ça produit un fruit demain ou ça ne produit pas, non. Il faut continuer à planter, même si le résultat se fera sentir après 10 ans, parce que la crise est encore à ses débuts. Notre planète est encore propre par rapport à ce qui aura lieu dans 10 ans. La crise est en train de grandir et de devenir plus dangereuse. Donc il faut aujourd'hui crier, se lamenter, faire arriver notre voix. Ça peut produire dans des années, ce n'est pas trop tard.